et à toutes, et bienvenue au podcast de Game Info. Cette semaine, je serai en compagnie de Mordren.
Salut tout le monde.
Et d'ATH.
Salut à tous.
Au sommaire de l'actualité cette semaine, nous vous parlerons de Not Tonight. On enchaînera ensuite sur Above. Nous parlerons de Toki, Spyro. On enchaînera ensuite sur un Mutant Year Zero Road to Eden. On parlera également de IO Interactive. Et enfin, on terminera avec Valve et Dark Souls. Allez, c'est parti messieurs, on commence donc cette semaine d'actualité avec Not Tonight, mon cher Mordren.
Oui, Not Tonight, alors c'est un jeu qui est tout fait en pixel art, comme c'est plutôt à la mode ces derniers temps. C'est un jeu qui est développé par No More Robots, et c'est un jeu qui est dans son air du temps, puisque il est inspiré par le Brexit, oui, et il se propose de nous mettre dans une société dystopique post-Brexit. Ça sera plein d'humour noir, donc ça peut être intéressant. Moi, en tout cas, tant qu'on peut péter la gueule de Nigel Farage, moi, ça me pose pas de problème. Ça m'intéresse.
Bon, après, honnêtement, pourquoi je voulais vous parler de ce sujet cette semaine, c'est pas tellement pour parler du jeu, parce que le jeu, en vrai, on n'en sait pas grand-chose. Ne serait-ce qu'en termes de mécanique, je sais pas, ce sera peut-être apocalyptique, voilà.
Ouais. Je suis pas très fan du trailer de ce point de vue-là, d'ailleurs, parce qu'on n'en apprend pas grand-chose. C'est vraiment un pitch plus qu'autre chose. Mais pourtant, ils annoncent déjà la date de sortie, puisque c'est censé sortir dans le courant de l'année. Donc, il va falloir se mettre à nous parler du jeu, quand même.
Oui. Pourquoi je voulais parler de ça, par contre? Parce que il y a beaucoup de réactions que j'ai vues suite à cette news, un peu partout, qui m'ont agacé. Oui, c'est un jeu qui parle de politique. Oh là là, qu'est-ce qu'on vient de nous faire chier avec la politique, machin. C'est du jeu vidéo, blablabla, blablabla, blablabla. Bla bla bla. Ce que je voulais dire, déjà, c'est que, oui, le jeu vidéo est un média où les gens peuvent s'exprimer, donc forcément, oui, ça parle de politique à un moment donné, comme toute forme d'art. Et ensuite, à un moment donné, les gens vont peut-être falloir comprendre que c'est pas parce qu'il y a des jeux qui parlent de politique que derrière, tu auras plus des jeux où tu joueras juste pour le plaisir de jouer, en fait, et où tu te foudras du message. Et surtout, ce que je voulais dire aussi, c'est que je préfère un jeu qui parle de politique et qui l'assume, plutôt qu'un jeu, par exemple, je sais pas moi, à la Ubisoft. C'est-à-dire Ubisoft qui a pour habitude de sortir des jeux. Bah, dernièrement, la Far Cry 5, ouais. Au début, bon, on pensait qu'ils allaient assumer un certain propos vis-à-vis des rednecks. Et puis finalement, t'as Ubi qui rétropédale et qui dit « Non mais regardez, on a mis des minorités visibles dans l'eau pour montrer que c'était pas que des blancs rednecks américains, tu vois. » Non mais, enfin voilà. Ou encore sur des titres comme The Division qui a des propos particulièrement puants, hein, n'est-ce pas? Ne serait-ce que parce que, tu vois, ça vient des œuvres de Tom Clancy, c'est quelqu'un qui avait quand même un certain discours, quoi, on va dire, donc c'est difficile de s'en détacher. Et donc, tu vois, je préfère un titre comme ça qui assume le fait qu'il veut parler politique et qui peut-être le fera bien, ça j'en sais rien, plutôt que des gens qui le font de manière détournée, en fait. Surtout quand le message derrière est pas forcément très ragoûtant. Je veux dire, quand tu vois Call of Duty, par exemple, ça fait de la politique, mais ça l'assume pas, quoi.
Ouais, je suis assez d'accord.
Il y a des jeux qui parlent de politique de façon détournée, mais qu'ils font très bien aussi. Par exemple, Paper Please, qu'on veuille ou non, il y a quand même un fort message politique derrière, quoi. Bon, certes, les mécaniques du jeu sont intéressantes, on peut le prendre comme pur jeu vidéo, mais dans le fond, il y a quand même un message, tu vois. Après, il faudrait peut-être que les mentalités évoluent et se dire que voilà, le jeu vidéo, c'est pas que du fun. On peut aussi raconter une histoire ou bien avoir un propos sur une situation donnée. Et voilà, enfin, Paper Please, pour moi, c'est un exemple parfait de jeu politique qui a très bien réussi, quoi.
Bah, en fait, moi, tu sais, j'ai souvent le sentiment, en général, que les gens qui ont ces réactions-là, c'est un peu aussi parce que le propos qui est tenu les emmerde, qu'ils commencent à dire « Oui, regardez ces jeux vidéo qui parlent de politique. » Alors, par contre, quand Call of fait de la politique, ça les gêne pas. Hein, alors que le message derrière, tu sais qu'il y en a un, quoi. Donc,
Mais c'est pareil dans le cinéma. Hein. Dans le cinéma, il y a aussi beaucoup de films de films de guerre où il y a un propos pro-américain. Mais quand on va poser la question, on va dire non, moi j'ai voulu faire un film un peu réaliste, ce genre de choses-là, et puis le message politique qu'il y a derrière...
C'est du pur divertissement, vous n'y pensez pas, voyons.
Ouais, exactement.
Je parle. Mais sur Not Tonight, moi je trouve ça intéressant en fait qu'ils choisissent d'axer leur campagne de pub sur le post-Brexit en fait. Parce que vraisemblablement, le jeu doit être en développement depuis un moment, donc avant même qu'il y ait cette idée de Brexit et que en fait ils avaient tout simplement l'idée de faire une société dystopique au Royaume-Uni, tu vois. Alors voilà, c'est juste pure conjecture de ma part bien sûr, hein, mais peut-être qu'ils ont juste eu l'idée de surfer là-dessus quoi.
Ce qui peut être un peu gênant par contre, je trouve, c'est-à-dire que enfin gênant dans le sens où j'espère que le jeu ne se repose pas que sur ça quoi. C'est-à-dire, ouais, regardez, on va parler du Brexit, et on va être bien trash, tu vois, et derrière, le jeu, c'est de la merde, quoi. Ouais. Le fait d'avoir un propos intéressant n'excuse pas d'avoir des mécaniques de merde. C'est un gros défaut, par exemple, d'un Spec Ops The Line, tu vois. Je pense que le jeu marcherait beaucoup mieux et aurait touché un beaucoup plus large public s'ils avaient pas fait un TPS aussi insupportable au début, quoi. Enfin, ATH, toi qui as joué, si personne t'avait dit, tu vois, que... Ouais, mais mec, ok, ça va être chiant, mais insiste un peu, il y a un truc intéressant derrière, je sais pas si tu serais arrivé au moment où ça devient intéressant, quoi.
Ah bah clairement, parce qu'en fait déjà le jeu, il faut savoir que je l'ai relancé au moins 2-3 fois pour vraiment aller jusqu'au bout, parce que le début du jeu, il est vraiment poussif, et quand j'y ai joué, ça me donnait pas envie en fait. C'est pas qu'il était un mauvais jeu, mais c'était quelque chose de vraiment classique, et puis tu vois, enfin, c'est un truc que j'avais déjà vu et revu, il faut vraiment se forcer en fait à continuer dans l'aventure et se faire un peu du mal, hein, pour avancer, pour avoir la petite cerise sur le gâteau à la fin.
On va maintenant parler de Above. Alors, qu'est-ce que c'est Above ? C'est un jeu d'exploration aéronautique avec une petite ambiance, je trouve personnellement, à la Porco Rosso. C'est fait par un studio qui s'appelle Mighty Mot. Je pense qu'il s'agit de leur premier jeu. En tout cas, vu leur site internet minimaliste, je pense que voilà, enfin, très clairement, c'est un studio qui vient d'ouvrir ses portes. C'est un jeu qui est prévu pour 2019. D'un point de vue de concept, ça me rappelle un peu comment il s'appelle ce jeu là, avec une ambiance toulouesque où tu dirigeais un navire là. Je sais pas si vous vous rappelez du titre.
Ah oui. Sunless Sea.
Voilà. D'un point de vue conceptuel, ça me rappelle vachement Sunless Sea, c'est-à-dire que tu vas diriger un navire sur une carte. Bon, là, en l'occurrence, un avion, mais vous voyez ce que je veux dire. Tu vas remplir des missions qui vont faire progresser une histoire, etc. Mais c'est Sunless Sea à l'inverse. C'est-à-dire que Sunless Sea, c'est le jeu sombre, déprimant, etc. Là, enfin, je sais pas. Moi, c'est un jeu, je le vois, ça me donne la banane, quoi. Il y a des environnements super chatoyants et tout, des structures un peu aliens ou venant du passé, etc. Enfin, vous le savez, mon jeu préféré, c'est Skies of Arcadia. Skies of Arcadia, c'est l'exploration avec un E majuscule, quoi. Et là, je retrouve un peu cette envie, tu sais, tu vois le jeu qui se lance, et t'as envie de prendre les commandes de cet avion et d'aller découvrir ce monde-là, quoi. En plus, visiblement, tu peux faire des acrobaties aériennes avec l'avion, etc. Va falloir gérer la hauteur et tout. Enfin, vraiment, très très hypé, personnellement. Alors, évidemment, pour le moment, on a vu qu'un trailer du jeu qui est assez court, hein. Il va falloir voir ce que ça donne en termes de mécanique sur le long terme. Mais, en tout cas, d'un point de vue ambiance, ils me l'ont déjà vendu. Rien à ajouter, Maren?
Non, ça a l'air cool, Bov. Moi, j'aime beaucoup la musique du trailer, en plus. Qui me fait penser à des compositions qu'on pourrait retrouver dans des films d'animation japonaise, notamment. C'est très, très cool. Ça m'a bien tapé dans l'œil.
Avec une ambiance un peu piste, tout ça, donc... Quoique, la partie où il te montre l'avion qui est perdu au milieu de la tempête avec une tornade, je pense que ça sera moins drôle. Surtout que apparemment il y a un altimètre et tout, donc il y a plein de choses qu'il va falloir gérer quand même.
Ouais, faut voir si l'appréhension de la profondeur quand t'es en top down comme ça.
Oui, parce que c'est vrai que ça en vue du dessus, une vue un peu à la Desert Strike si vous avez joué à ces jeux à l'époque.
Donc à voir si ça sera bien géré, surtout si en plus il faut gérer l'altitude. Faudra faire attention un peu à ça quand même.
Donc point d'interrogation sur la maniabilité, mais en tout cas ça a l'air d'avoir une putain d'ambiance. Bon. On va parler maintenant d'un remake, Marlon.
Un remake qu'on attend depuis longtemps, c'est Toki. Toki qui est en train de se faire remaker en France depuis 2010, donc ça commence à faire. Et la dernière fois qu'on avait entendu parler de lui, déjà c'était dans une interview de Game Info, hein, par notre ami Pixel. On vous remettra le lien, évidemment. Et du coup, l'info de la semaine concernant Toki, c'est que il va arriver sur Switch, a priori à la fin de l'année, s'il n'y a pas de nouveau report. Évidemment, on pense à cette plateforme qu'est la Switch maintenant, qui accueille des bateaux entiers de jeux indépendants, mais pourquoi pas Toki, qui a priori visuellement correspond tout à fait à des jeux sur lesquels on pourrait jouer sur la Switch, que ce soit en portable.
Surtout qu'il est super joli quand même. Hein,
ouais, il est vraiment superbe, c'est très très joli à regarder.
Bah en tout cas, encore la ruée vers l'or sur Switch. Bon, par contre les gars, au bout d'un moment, ça va finir par se voir. Hein. Surtout que c'est une offre limitée, quoi, on va dire. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, vu tout ce qui sort sur Switch, je pense qu'il va y avoir un effet de saturation.
Mais par contre, il va falloir y aller au bout d'un moment.
Qui a envie de rejouer à Toki, quoi, aujourd'hui?
Bah honnêtement, faut voir si moi ce que je vois visuellement c'est cool. Après j'ai aucune idée de ce que ça va donner d'un point de vue gameplay, donc j'en sais rien parce que c'est un remake, hein, faut pas l'oublier. Donc un remake c'est normalement on revoit les mécaniques de jeu. Donc s'ils font bien leur boulot, moi comme ça j'ai pas d'a priori parce que je vois qu'en tout cas d'un point de vue graphique le taf est fait. Donc maintenant il faut voir si manette en main ça suit quoi.
Ah mais c'est vrai que graphiquement la version Switch qui est montrée est assez jolie. Mais je veux dire quoi, enfin le jeu original déjà, c'était un singe qui tirait des boules par la bouche avec un casque de football américain quoi. Enfin c'était un jeu quand même. Il y avait la version arcade qui était cool, mais après les autres versions parce que quand même c'est un jeu qui est sorti sur plein de plateformes quoi. Donc si les gens ont envie vraiment de se refaire Toki, soit ils se reprennent la version arcade, ils la font tourner en émulation, ou soit ils le prennent sur un support d'époque quoi. Parce que, enfin Toki, c'est pour moi c'est pas un jeu qui a marqué tant ça le jeu vidéo quoi.
Ouais, mais je pense que c'est là où la Switch entre en scène, en fait, dans le sens où ça fait partie de ces jeux, pour moi, qui s'achètent bien sur cette console-là pour se jouer en portable, en fait, tu vois. Ne serait-ce que visuellement, je trouve que ça fonctionne super bien. Donc après, évidemment, il va falloir compter un petit peu sur du bouche-à-oreille. Moi, je vois mal les gens qui ont déjà joué à l'époque forcément racheter Toki avec le souvenir du truc, mais je vois bien éventuellement une nouvelle génération découvrir Toki avec notamment sur Switch en fait.
Bah surtout que là honnêtement tu mets ces screenshots là sur le store de la Switch.
Ouais.
Quand tu vois les machins pixel art qui se vendent, qui sont connus du grand public, bah, moi je pense que ne serait-ce que visuellement tu vois il y a moyen d'attirer le chaland derrière.
Ah,
et des gens
sûr.
Qui connaissent pas du tout la licence quoi.
Non mais après j'espère juste qu'ils vont pas se contenter de redessiner, tu vois, les niveaux originaux.
Ouais.
Je veux que ça soit un vrai remake dans le sens où, à l'instar d'un Resident Evil, par exemple, qui a été refait sur GameCube, quand ils ont fait un remake, ils t'ont ajouté une portion de jeu en plus et un nouveau plan sur le scénario avec, par exemple, Lisa Trevor, il me semble que c'était son nom. C'était un vrai remake. C'est-à-dire, on prend le truc de base, mais on ajoute autre chose ou bien on modifie, certaines structures du jeu pour pas que ça soit exactement le même jeu juste avec des nouveaux graphismes, quoi.
Bah d'ailleurs justement TH, je saisis la balle au bon. Ça y est, Spyro, le remake des trois épisodes, c'est ça qui était sorti sur PlayStation.
Trois premiers épisodes, mais
c'est officiel. Et là pour moi on est totalement dans ce cas-là parce que franchement autant sur Crash Bandicoot, je pense que ça pouvait passer le 1 pour 1 en termes de gameplay quand on va dire. Et encore il y a 2-3 trucs qu'ils ont retouchés. Hein. Autant sur Spyro. À mon avis, il y a beaucoup de gens qui vont prendre un sacré coup de vieux quand ils vont reprendre le jeu en main, quoi. Parce que il y a quand même pas mal de choses qui ont été faites entre-temps en matière de plateforme 3D. Et déjà à l'époque, je pense que certes, sur PlayStation, on pouvait se contenter de ça. Mais je connais beaucoup de gens, par exemple, qui avaient joué à Super Mario 64, qui disaient, non mais Spyro, c'est quoi ce truc, c'est chiant, tu vois, enfin, c'est, le level design, il est naze, blablabla. Je pense qu'il va falloir faire un vrai taf de remake derrière. C'est-à-dire que juste la refonte graphique, ça va pas marcher, là, à mon avis.
Alors, personnellement, moi, je suis des gens qui ont joué à Super Mario 64, et quand tu m'as amené d'autres jeux de plateforme, moisi de la PS1, je te disais, c'est quoi cette daube? Tu vois, par exemple, tout ce qui était les jeux comme, ah, je sais plus, là, le jeu avec un crocodile, enfin, il y avait plein de jeux comme ça.
Croc,
voilà. Tu sais, les jeux comme ça qui sortaient. Tu vois, c'était des jeux qui essayaient de faire du Mario 64, mais c'était Mario 64, leader price, quoi. Et même, par exemple, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien Banjo-Kazooie, mais pour moi, Banjo-Kazooie, ça ne fait pas du tout poids par rapport à Super Mario 64, alors que c'était un des jeux de lancement de la machine chez nous en Europe, tu vois. Moi, je pense que des jeux comme Crash Bandicoot et Spyro ont bien marché parce qu'ils étaient sur PlayStation. Et que sur PlayStation, justement, il n'y avait pas les jeux de plateforme type Nintendo.
Quoique, Crash Bandicoot, honnêtement, je pense qu'il aurait pu marcher quand même parce que c'était pas de la plateforme 3D, en fait. Enfin, c'était de la plateforme 2D avec une perspective 3D, quoi. Donc, il cassait pas les codes du genre, quoi, tu vois. Enfin, alors que Spyro, par contre, il essayait vraiment d'être un platformer 3D. Et autant quand t'avais pas joué à Mario 64, bon, ça passait, tu vois. Mais dès que tu mettais la main sur Super Mario 64, derrière, ça avait pris un petit coup de vieux déjà, quoi.
Moi, personnellement, j'ai relancé Spyro en émulation il y a un an à peu près. Parce que, tu sais, j'avais les souvenirs d'enfant, en fait, de Spyro. J'aimais beaucoup Spyro à l'époque.
Oui, parce que c'était un jeu d'ambiance, plus, je trouve, moi.
C'est ça.
Tu y jouais parce que l'univers était cool, quoi, en fait.
Ouais, l'univers était vraiment cool, et puis j'avais des souvenirs de monde de glace, des choses comme ça, quoi. Je me souvenais plus exactement auquel j'avais joué, moi. C'était le 1, le 2 ou le 3. Mais bref, donc du coup, j'ai relancé le 1. Et effectivement, ça a vieilli. Hein. Je sais pas si vous vous rappelez, mais souvent, en fait, avec les problèmes de caméra qui, a priori, vont être changés dans ce remake-là, moi, j'allais très vite avec Spyro, puisqu'il a une attaque où il fonce.
Oui, une attaque bélier, un peu.
Exactement. Souvent, en fait, je terminais dans les murs, mais tu sais, à répétition. Tu sais, tu fais doum, doum. Et je me souvenais pas que c'était maniable comme ça, en fait. Et je pense que s'ils adaptent un pour un la maniabilité de Spyro sur PS4 et Xbox One, alors Switch, c'est pas encore confirmé, mais voilà, ça arrivera sans doute comme Crash, ça risque d'être compliqué. Donc j'espère qu'ils ont eu la bonne idée de retravailler un petit peu tout ça, parce que... voilà, il va falloir un petit peu se sortir les doigts, parce que je trouve que ça a quand même un peu vieilli, effectivement, la comparaison avec Mario 64, ça risque d'être complexe. Mais rien qu'en tant que jeu, sans comparer quoi que ce soit, ça peut aussi être un petit peu poussif, quoi.
Par contre, ce que promet Activision, c'est qu'ils annoncent que le paramètre de mouvement des personnages vont être reproduits vraiment à l'identique pour respecter les collisions de l'époque. Donc moi, ça me fait un petit peu peur, tu vois, quand je vois ça.
Autant sur Crash Bandicoot, ça pouvait se comprendre parce
que... C'est un truc un peu millimétré quand même.
Oui, mais c'était un jeu plateforme qui avait pas vraiment de défaut de gameplay.
Ouais.
À part, tu sais, les phases où tu avances et tu vois pas vers où Crash Bandicoot se dirige.
Ouais, bien sûr.
Oui, les phases Indiana Jones, quoi.
Ouais, c'est ça. Les phases Indiana Jones où Crash vient vers toi, et du coup, comme il vient vers toi, bah, tu vois pas les obstacles. Et moi, j'ai toujours trouvé ça totalement débile, déjà à l'époque. Mais à part ça, je veux dire, c'est un jeu qui fonctionnait d'un point de vue gameplay. Et même aujourd'hui, il est fonctionnel. Alors que Spyro, pour moi, c'était surtout un jeu d'ambiance. Et honnêtement, est-ce qu'on perdrait à changer les contrôles pour faire quelque chose d'un peu plus moderne? Je vous dis pas non plus de faire un truc où t'appuies sur un bouton et il te fait... des actions à Assassin's Creed, tu vois, mais quelque chose d'agréable, quoi, en prise en main. Je sais pas, regarder Mario Odyssey ou ce genre de choses, quoi.
Ils en avaient refait un, d'ailleurs, de Spyro, c'était sur 360 à l'époque, 360 et PS3.
Le dernier où Spyro est apparu, c'était un Skylander, et puis après, dans les Skylanders suivants, Spyro n'était plus là, ou bien que en tant que guest star,
ouais,
tu
ouais,
vois.
Ouais, mais moi, je me souviens d'un truc qui était d'une expérience qui était un petit peu plus proche de ce qu'on avait avant. Et qui était beaucoup plus sympa à jouer. C'était la légende de Spyro, naissance d'un dragon. Et j'espère quand même qu'ils ont fait une espèce de mix. Parce que là, bon, le problème, c'est qu'on parle d'un remake. Donc du coup, tu te dis, est-ce qu'ils vont être super respectueux du matériau d'origine, ce qui a été le cas avec Crash Bandicoot. Bon, c'est pas les mêmes développeurs que celui de Crash Bandicoot, donc à voir. Par contre, c'est les développeurs de Skylanders. Donc, bon, faut voir. Mais en tout cas, pour avoir eu cette expérience d'offrir un Crash Bandicoot Insane Trilogy à un gamin de 12 ans, je me rends compte que Crash Bandicoot, c'est très compliqué pour un gamin qui est pas très habitué en fait aux jeux de plateforme et qui est pas très habitué aussi à ce que ça soit difficile. Pour le coup, je pense que Spyro, ça sera pas un problème.
Spyro, ce qu'on peut lui reconnaître, c'était que
c'est très accessible.
C'est un jeu qui est pas, il y a pas vraiment de pic de difficulté qui arrive, tu vois.
Ouais.
Si ce n'est peut-être un peu vers la fin, alors que Crash Bandicoot, t'as le premier niveau tuto, ouais, etc. Ouais. Mais après, on va dire que la difficulté, vu que c'est un jeu un peu à l'ancienne, comment ça s'appelle, Donkey Kong, mm-hmm, tu vois. Les Donkey Kong, c'est des jeux quand même qui sont assez ardus pour les terminer. Alors que Spyro, tu vois, moi je pense que c'est un jeu PEGI 3 sur la boîte, c'est pas déconnant.
Ouais.
L'univers est charmant. Il y a pas de grossièreté, c'est des dragons qui sont très cartoonesques. Donc, moi, je pense que pour vraiment un enfant en bas âge, commencer par ça, c'est bien.
Mais tu vois, c'est pour ça que, à mes yeux, ça n'a aucun sens de garder les contrôles de l'époque.
Ouais.
Oui.
À qui tu vas vendre ça? Tu vas vendre ça aux pères de famille ou aux mères de famille?
Exactement.
Qui veulent partager leur expérience d'enfant avec leur gosse
c'est
à
ça.
Eux. Franchement, si tu mets les contrôles d'époque, bon, ça va pas être hyper agréable non plus, quoi. Surtout que Spyro, je crois que c'est un jeu qui est sorti à une époque où il n'y avait pas encore de stick analogique.
C'est possible, ça.
Et je crois qu'il est sorti avant Ape Escape, donc voilà. C'est compliqué, quand même. Et moi, je suis un peu partagé, parce que je crois que j'ai dit ici que parmi les remakes que j'attendais celui de Spyro, mais dans ma tête, moi, quand je parlais de remake, je pensais à un vrai remake,
une
tu
refonte,
vois.
Ouais.
Pas juste un remaster graphique, quoi, entre guillemets.
Bah, à voir, du coup, on va lui laisser une chance, mais on va voir ce que ça donne.
Et quelque chose qui me fait un petit peu peur, c'est que les musiques vont être réorchestrées, donc ça sera plus vraiment les mêmes musiques qu'on avait connues à l'époque sur le jeu d'origine.
Ils sont un peu obligés. Hein.
Oui, ils sont un peu obligés, bien sûr, mais après, est-ce qu'ils vont garder la même musique de l'époque et juste faire un arrangement, ou bien partir sur une musique originale, quoi?
Non, je pense qu'ils vont faire comme Crash, c'est les mêmes musiques qu'avant, mais réorchestrées.
Voilà, c'est un peu le business de la nostalgie, quoi. À
un moment donné,
il faut sortir les doigts, quoi, aussi.
Bah, après, tu sais, le cinéma fait ça depuis des dizaines d'années. Le jeu vidéo aussi, mais à peine, on n'a pas terminé, hein.
Ouais, mais je pense que le jeu vidéo, c'est encore plus compliqué que le cinéma.
Oui.
Parce qu'il y a toute la notion de gameplay. Et,
ah, c'est sûr.
Le cinéma, bon, voilà, quoi qu'il arrive, de toute façon, tu vas retourner tous tes plans, etc. Donc, tu peux faire les choses de manière différente. T'es obligé de les faire de manière différente. Mmh. Alors que là, le jeu vidéo, t'as quand même cette facilité de dire, ok, je fais juste l'habillage et puis le gameplay, bon, un pour un, et puis voilà.
Parce que t'as la tradition du portage aussi. Et d'ailleurs, souvent, avec les annonces de remake, les observateurs se posent un peu et se disent, bah attends, c'est un remake, c'est un portage, de quoi on parle en fait?
Et surtout que le jeu vidéo par rapport au cinéma, il a une autre contrainte, c'est le matériel, quoi. Le portage,
oui,
on va dire, c'est pas plus au jeu vidéo qu'au cinéma, parce que voilà, tel jeu ne fonctionne pas sur telle machine, donc on va faire un remake, et surtout que ça va pas coûter beaucoup d'argent, et puis ça va nous permettre de faire quelque chose vite fait, bien fait, pour faire plaisir aux nostalgiques et, entre guillemets, faire plaisir aux nouveaux qui connaissent pas la licence. Moi, j'aime bien les remakes quand il y a un apport en plus qui est fait par rapport à l'œuvre de base, et pas que ça soit vraiment quelque chose qui est repris.
Ouais, c'est vrai que t'en as qui vont un petit peu plus loin, et qui te proposent des choses inédites. Bon, là, c'est vrai que c'est pas le cas. Après, c'est Activision qui est derrière, donc on peut peut-être un petit peu plus comprendre pourquoi ils te mettent pas des choses nouvelles.
Bon, on va passer à la suite, et on va maintenant parler de Mutant Year Zero. Alors, qu'est-ce que c'est Mutant Year Zero? Eh ben, déjà, alors, avant de dire ce que c'est, il va falloir dire par qui c'est fait, n'est-ce pas? Alors, c'est un nouveau studio qui a la particularité d'avoir à sa tête des gens qui ont notamment été lead gameplay designer et lead level designer pour le dernier Hitman. Et je pense que c'était des domaines qui étaient plutôt réussis, hein, THP en témoigner.
Ouais, franchement, sur Hitman, ils avaient fait du bon boulot. Donc.
Voilà. Donc, c'était des gens qui occupaient un rôle assez important et qui savent ce qu'ils font dans ces domaines-là, en tout cas. Ensuite, ce qu'il faut dire, donc pourquoi on vous parle de ce jeu cette semaine, c'est parce que il a l'air vachement intéressant, et je pense que notamment moi et Mardren, ça nous titille pas mal, parce que bon, alors, c'est un RPG tactique qui se déroule dans un univers post-apo. Vous allez jouer des mutants qui vivent dans une arche, enfin, vous l'aurez compris, l'arche, évidemment, hein, c'est l'endroit où les derniers survivants de l'humanité se sont regroupés, blablabla. Sauf que, évidemment, tout se passe pas comme prévu et qu'en fait, c'est un peu la merde. Il va falloir aller chercher des ressources à l'extérieur pour améliorer les conditions de vie des habitants de l'arche. Voilà. ça ressemble par certains côtés à un XCOM. Alors, je refuse de l'appeler un XCOM-like parce que il met totalement de côté l'aspect gestion de ressources d'un XCOM. Par contre, il reprend l'aspect combat d'un XCOM, c'est-à-dire pas mal de RNG, des décors destructibles, de la gestion en relief et un système de couverture. Enfin, tu vois le jeu tourner, très clairement, c'est du XCOM. Par contre, là où il commence à se distinguer, c'est que c'est un jeu qui est centré sur l'exploration, donc reconnaissance, loot, recrutement. D'ailleurs, le recrutement se fera un peu comme dans un JRPG, c'est-à-dire que tu vas te balader sur les maps du jeu, tu vas croiser des PNJ avec qui tu vas discuter et tu pourras les recruter.
Voilà. C'est cool.
Il y a aussi un système de mutation, parce que comme je l'ai dit au début, vous allez jouer des mutants. Donc, par exemple, il y a une espèce de personnage mi-homme, mi-porc qui peut se créer une peau de pierre. Enfin, en gros, c'est le tank du jeu, quoi. Il va pouvoir se prendre des bastos et résister à ces dernières. T'as Daffy Duck qui est aussi là, qui, lui, peut se faire pousser des ailes de chauve-souris, qui peut voler dans les airs, etc. Et donc, profiter de cet avantage pour exploiter le relief du terrain, etc. Sachant que chaque personnage aura des évolutions spécifiques, voilà. Et aussi, il n'y aura pas de permadeath par défaut, contrairement à XCOM, où là, c'est un peu fait par design. Par contre, il sera possible d'activer cette option dans les menus.
Voilà.
Personnellement, assez hypé, ne serait-ce que parce que, d'un point de vue ambiance, ça a l'air cool. L'aspect infiltration a l'air assez réussi. Je précise que, pour ceux qui ont joué à XCOM 2, oui, dans XCOM 2, il y a de l'infiltration, mais là, il y a vraiment un côté, tu vas pouvoir te balader librement sur la map, en fait. En tout cas, dans la vidéo qu'ils ont montré pour le moment de gameplay, c'est beaucoup plus simple de se balader de manière discrète pour explorer le niveau que dans un XCOM, en fait, où c'est limite, si t'as pas un espèce de chronomètre, tu sais qu'au bout d'un moment, tu vas te faire opérer de toute façon, tu vois. Alors que là, vraiment, c'est beaucoup plus pisse en termes d'exploration, quoi, on va dire. Du coup, ce qui est intéressant, je trouve, c'est que d'un point de vue level design, il y a des trucs qui sont cachés, etc. Par exemple, ils montraient dans la vidéo qu'ils ont mis en ligne, là. C'est une vidéo de gameplay de 30 minutes qui est assez cool, d'ailleurs. Si tu explores bien, tu vas tomber à un moment donné sur un espèce de robot géant que tu vas pouvoir activer pour que il tue les ennemis de la base. Enfin, il t'attaquera aussi, hein, soit dit en passant, mais du coup, tu auras placé tes personnages en conséquence pour qu'ils soient le plus éloignés possible au moment où le robot va sortir. Par contre, on imagine bien que si tu explores pas bien la map, tu vas commencer à attaquer la base, et là, les ennemis ils vont utiliser le robot qui va tomber sur la gueule. Donc, il y a vraiment toute une notion de reconnaissance qui a l'air assez importante dans le gameplay du jeu, et moi, ça me plaît. Voilà.
Ouais, ça a l'air très cool cette histoire, j'aime bien l'aspect RPG tactique plus furtif, ça peut être intéressant à manier, et puis le côté tu fais ta petite tambouille avec la permadeath, si t'en veux pas, bah tu l'enlèves, si tu la veux, tu la mets, c'est plutôt cool, ça a l'air très intéressant.
Et puis j'aime bien aussi le fait qu'on ait des personnages qui ont une personnalité, enfin, tu le vois dans les vidéos, etc.
Ça c'est quelque chose qui me manque un peu à XCOM quand même.
Après, XCOM, c'est pas le même délire, je trouve.
Clairement,
c'est-à-dire que XCOM, c'est les personnages que tu te crées. C'est pour ça que la permadeath est aussi importante dans XCOM. Et je comprends pourquoi ils la mettent par défaut dans XCOM. C'est que, tu vois, t'as passé du temps à créer tes personnages. C'est un réticien, en fait.
T'as pas le même rapport au perso.
Ouais, c'est pas le même rapport. C'est ta petite équipe à toi, en fait. Tu vois. Et c'est pas tant pour leur personnalité, ça, tu t'en fous. C'est parce que t'as passé du temps avec eux, etc. T'as bossé sur eux et ça te fait grave shit qu'un personnage crève, quoi. Donc,
ce qui n'a rien à voir avec la permadeath dans un Fire Emblem, par exemple, où pour le coup, là, c'est des personnages avec qui t'as vécu pendant plusieurs heures, qui ont eu des rapports avec d'autres personnages. Du coup, là, forcément, il y a vraiment un aspect scénaristique et, finalement, toi, tu t'investis émotionnellement avec certains personnages, et pas tous, hein, évidemment, puisque forcément, t'as ta petite team dans Fire Emblem, tu te dis, bon, je joue tout le temps avec ceux-là parce que déjà, un, ils sont forts vu que je joue beaucoup avec eux, et deux, parce que, voilà, ils ont des rapports entre eux, donc c'est ça qui est cool. Peut-être que dans Mutant Year Zero... Oh là là, c'est beaucoup trop long comme titre. Bref, peut-être que dans ce jeu-là, il y aura ce petit aspect supplémentaire que peut apporter notamment un Fire Emblem.
Par contre, un aspect où pour moi... il est beaucoup plus agréable que XCOM et c'est incontestable à mes yeux, c'est la direction artistique, quoi.
Ouais.
Enfin, XCOM, c'est vraiment RPG random science-fiction, quoi, si tu veux.
C'est vrai.
Alors que là, bon, tu vois Daffy Duck, t'as compris, quoi. C'est. Mmh.
J'ai toujours détesté le look des aliens dans XCOM.
Ouais.
Mais bon, ça, c'est autre chose.
Bon, on enchaîne?
Ouais.
On va maintenant parler de Hitman Man.
Et oui, parce qu'on parlait furtivité et puis du coup, ancien designer de Hitman. Hitman, en fait, on en a beaucoup parlé l'an dernier, notamment avec la situation d'IO Interactive que Square Enix a laissé partir. IO Interactive est désormais indépendant et a gardé les droits de la licence Hitman. Donc finalement, c'était une issue qui était vraiment positive à cette histoire-là. Et en fait, IO Interactive a communiqué des chiffres qui sont vraiment, vraiment importants pour Hitman. On rappelle que la licence a lancé un jeu en 2015 qui est épisodique. Ils ont annoncé qu'ils ont 12 millions de joueurs à travers le monde, à savoir qu'il y en avait 7 au mois de novembre dernier, et que IO est devenu indépendant, c'était en juin 2017. Donc il y a eu une vraie rampe d'apport de joueurs depuis, en fait, l'indépendance du développeur. Donc c'est vraiment, vraiment très cool.
ATH, heureux.
Bien sûr, heureux, parce que Hitman, c'est une licence que j'affectionne tout particulièrement. Mon préféré, ça restera toujours Blood Money, mais c'est vrai que je suis content pour IO qui ils ont pu garder la licence, parce que ça me fait chier que des mecs, tu vois, qui bossent sur une licence depuis pas mal d'années, sous prétexte qu'ils soient rachetés par un éditeur, bah on leur enlève la licence, et bah là le fait qu'ils la conservent et justement ils montrent à Square Enix, bah voilà, finalement on est mieux sans vous, quoi. Ça peut montrer la voie, je pense, à d'autres personnes qui ont créé des licences fortes et qui peuvent se dire, bah un éditeur c'est bien, mais si on peut s'en passer pour pouvoir fonctionner sans eux, ça peut être pas mal aussi, quoi.
Ouais.
Parce que tu vois, Hitman, moi c'est un jeu que j'avais critiqué dans le négatif parce que ça manquait un peu de contenu par rapport en fait aux anciens Hitman, mais en termes de level design, en termes de qualité de jeu, il y avait rien à redire. En fait, moi je pestais plus vraiment sur le fait que les épisodes sortaient un à un comme ça et que entre chaque épisode, bah tu faisais toujours le même niveau.
Ouais.
Et je me dis que tu vois, j'aimerais bien qu'ils sortent la saison 2, mais vraiment la saison 2 d'une traite pour que je puisse me la faire d'un coup, quoi, parce que si c'est pour encore attendre un épisode par un épisode, mais je les comprends en fait. Un jeu vidéo, ça coûte cher.
Ouais.
Ils ont besoin d'une entrée d'argent. Et si c'est un moyen pour eux de survivre, de le faire de manière épisodique, bah moi je continuerai à les soutenir et je prendrai la saison 2 de Hitman, quoi.
Bah d'autant plus maintenant qu'ils sont indépendants, je veux dire, parce que c'est quand même un jeu qui a une ampleur de triple A, je pense qu'on peut le dire, et qui finalement bah t'as quand même besoin d'une rentrée d'argent, et donc je comprends que du coup ils fassent des cycles de développement en fait un petit peu plus courts avant la sortie et donc la rentrée d'argent. Donc un épisode, une rentrée d'argent, un autre épisode, une rentrée d'argent. Et au final, les gens qui sont un petit peu frustrés par le manque de contenu, entre guillemets, bah, ils peuvent venir plus tard, finalement, en fin de cycle de saison. Maintenant que la saison 1 est terminée, je pense que t'as des joueurs qui étaient peut-être un petit peu rebutés par le manque de contenu initial, qui peuvent vraiment se lancer dedans, en fait, maintenant que finalement, t'as quasiment le contenu d'un jeu complet. C'est intéressant, je trouve, comme système, et je trouve que c'est beaucoup plus soutenable pour eux, maintenant, qu'ils sont devenus indépendants, que de balancer tout d'un coup, quoi.
Et moi, je dis que si IO Interactive fait une saison 2, bah, je la prendrai avec plaisir une fois qu'elle sera sortie complète, parce que il y a d'autres jeux qui font l'infiltration, mais Hitman, c'est pas la même mécanique, en fait. Parce que Hitman, tu te déguises, t'as plusieurs moyens d'arriver à tes fins, et c'est pas du tout la même optique, par exemple, qu'un Metal Gear ou un Splinter Cell. C'est des jeux d'infiltration, mais qui ils sont vraiment à l'opposé l'un de l'autre, quoi.
Bon, on va passer maintenant au trollo de la semaine. Alors, on va pas passer 3 heures dessus, hein, c'est juste que bon, au bout d'un moment, voilà, faut arrêter le foutage de gueule. On va parler de Valve. Valve qui a annoncé que non, il n'abandonnait pas les Steam Machines. Alors pourquoi on parle d'abandon des Steam Machines? Parce que il se trouve tout simplement que vous savez, sur Steam, il y a un onglet pour le hardware. Oui, d'ailleurs, peut-être que je vous l'apprends, hein, soit dit en passant. Moi, je savais pas avant cette news. Pour être très honnête avec vous, je savais pas qu'il y avait un onglet pour acheter du hardware. Je savais que Steam vendait du hardware, mais je savais pas qu'il y avait un onglet spécifique pour ça. Et j'ai découvert à cette occasion que effectivement Valve avait une page spéciale dédiée où il y avait notamment le Steam Link et où il y avait les Steam Machines. Ils ont viré cet onglet et il se trouve que apparemment on ne peut plus acheter des Steam Machines sur Steam. Voilà. Bon, du coup, si Valve vire l'onglet qui sert principalement à vendre ce matos-là, on peut se dire que Valve l'a abandonné. Et il se trouve que on a eu droit en réponse de la part de Valve que oui, non, mais vous comprenez. Alors c'est un post sur le forum de Steam. Hein. Ils ont remarqué que blablabla, les gens réagissaient à cette, au fait qu'ils aient retiré cet onglet. Et que, mais non, vous comprenez, alors certes, les Steam Machines, elles ont pas très bien marché, bon, c'est le minimum à reconnaître, hein. Mais non, non, on n'a pas du tout abandonné Steam Machines, la preuve, on bosse sur SteamOS. Et moi, j'ai envie de dire, mais quel est le fucking rapport, quoi? On te parle des Steam Machines, là, je te parle pas de l'OS qui tourne dessus, hein. Je te parle des Steam Machines. Est-ce que les Steam Machines sont soutenues par Valve? Non. La preuve, Valve vient de retirer l'onglet. Le seul endroit où on pouvait les acheter, tu vois. Donc, à un moment donné, reconnaissez que vous êtes planté, c'est tout, voilà. Mmh. Bon, je sais bien que vous avez fait un communiqué il y a pas si longtemps où vous étiez en mode « Oui, ça y est, on a réussi à produire du hardware chez nous, on va avoir des outils à Nintendo, c'est-à-dire avoir la capacité de produire le hardware et le software. » Alors que c'est pas vrai, et encore une fois, voilà l'exemple, quoi. Enfin,
on rappelle bon. Que Nintendo, ils arrivent quand même à vendre le hardware. Hein.
Ouais, voilà, c'est ça.
Mais là, le problème, c'est que Valve, ils avaient le hardware, mais le software, ils avaient pas, quoi. Enfin, Valve avait des licences, et puis aujourd'hui, ils n'en font rien, quoi. Eux-mêmes, ils la donnent à d'autres.
Bah si, ils font leur jeu de cartes, là.
Waouh, non, franchement.
C'est Dota, ça.
Tu m'as convaincu. Non, c'est bon, tu m'as convaincu.
Je suis allé vérifier quand même sur Steam. J'ai tapé Steam Machine dans l'onglet de recherche et je suis tombé sur trois pages. Une Alienware, une Materiel.net et une Scan.uk. T'as même pas les prix qui sont affichés sur ces pages dans le magasin. J'ai cliqué du coup sur visiter le site web puisque ça te renvoie sur des sites. Et donc la Alienware, ça te renvoie sur Dell.fr. Et il y a écrit « Nous sommes désolés, cet article ne peut plus être acheté en ligne. » Sur Materiel.net, il y a écrit « Aucun produit ne correspond à vos critères de sélection. » Et sur Scan.uk, t'arrives sur la sélection pour te faire un custom PC. Voilà.
Non mais je crois qu'en fait, ils disent la vérité. C'est-à-dire que Valve, ils ont pas abandonné Steam Machines, c'est tous leurs partenaires qui les ont abandonnés.
C'est tellement triste. On n'en veut plus de ta merde.
Déjà, à la base, on se demande pourquoi on s'est lancé là-dedans. Alors,
C'est...
Enfin bref, on va pas revenir là-dessus. Hein. C'était une idée à la con, de base. De base, que tu dises à plusieurs constructeurs, bon, on veut telle configuration, vous apposez votre marque dessus si vous voulez, vous faites les optimisations que vous voulez dessus, mais il faut qu'on ait un produit, tu vois, un peu homogène, que t'aies pas 36 versions de la Steam Machine et que tu saches pas quoi acheter au final. Enfin bon, de toute façon, c'était un échec annoncé. Bref.
Ouais.
On reviendra pas là-dessus. On va terminer, Mandren, sur la news qui va nous faire parler moi et Adèche cette semaine.
Oui.
C'est Dark Souls Remastered. Ou pas, peut-être, hein, d'ailleurs.
Dark Souls Remastered, on rappelle que c'est censé arriver en mai, il me semble bien. Sur PC, pas 360, mais Xbox One et PS4.
Lapsus.
Voilà, on a des infos sur les apports de cette nouvelle version. Et notamment, le soutien de la 4K, du 60 FPS a priori constant, ce qui peut être intéressant notamment dans certaines zones du jeu. On sait qu'il va y avoir de nouvelles textures, un nouveau rendu de la lumière... Un nouveau feu de camp chez le forgeron des catacombes.
Putain, quelle bonne idée!
Moi, je lis ma fiche, je sais pas de quoi ça parle. Hein. On m'a dit, lis ça, je lis. A priori, c'est impossible de changer la taille de l'interface utilisateur. Bon, c'est pas génial, mais c'est déjà ça.
Bon, elle sera toujours autant à chier, mais vous pourrez changer la taille.
Voilà. À savoir que le multijoueur va passer de 4 joueurs maximum à 6. Il y aura des matchs PVP possibles jusqu'à du 3v3.
Du coup.
Il y aura des serveurs dédiés. Au lieu du peer-to-peer pour le multi. Donc ça, a priori, c'est bien. Et possibilité de mettre un mot de passe pour le jeu en ligne, de restreindre le jeu en ligne sur un serveur de sa région. Donc ça, c'est pas mal pour le ping. Ça sera plus possible d'invoquer des alliés une fois en PVP. Il y aura la synchronisation du niveau d'un allié invoqué et de son matos avec l'hôte de la partie. Les fantômes auront moitié moins de fioles d'estus. Et de tous les objets de soins, seule la fiole d'estus sera utilisable en PVP, et si le host remporte le combat, ces fioles d'estus sont restaurées. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Il y a pas mal de trucs sur le PVP quand même, hein?
Bah, il y a pas mal de trucs sur le multi, et je pense que c'est ça qui est l'intérêt essentiel de ce... J'ai même pas envie d'appeler ça un remaster, de ce portage, voilà. C'est le terme que je cherchais. Après, Déjà, j'aime pas du tout ce qu'ils ont fait avec la lumière. C'est-à-dire que, oui, enfin, le moteur de la lumière est plus réaliste, ça d'accord, mais je trouve qu'il y a des trucs qui sont délavés. Enfin, je sais pas, ça fait très terne, je trouve. Enfin, je suis pas du tout fan du rendu, moi.
Rien que la lumière, quand tu vois dans les égouts sur PS4 Pro, t'as l'impression que les murs, c'est du plastique, quoi, en fait. Ça brille tellement que...
Est-ce que vous avez déjà visité des catacombes? Je peux vous assurer que les murs, ils ont pas se rendu là, hein, quand tu les éclaires avec la lumière.
C'est ça, et puis même moi, j'ai envie de te dire que j'ai pas envie d'appeler ça un remaster, parce que ils ont fait un portage sur les versions actuelles et mis le PVP de Dark Souls 3 dans Dark Souls 1, quoi.
C'est
ce qu'ils ont fait, en fait. C'est très bien pour ceux qui n'ont pas fait le jeu à l'époque. Ça reste quand même un grand jeu, hein, Dark Souls premier du nom, avec son level design qui n'a pas été égalé par les autres jeux qui ont suivi. Mais mis à part ça, pour quelqu'un qui a déjà fait le jeu de long en large, en travers, avec le DLC Artorias of the Abyss, voilà quoi. Mm-hmm. Pour moi, Dark Souls 1, ça restera toujours un de mes meilleurs jeux la gêne précédente, mais je vais pas repayer pour ça, quoi.
En vrai, ATH, je pense qu'on devrait l'appeler Dark Souls Switch, qui a été porté au passage sur One et PS4, parce que bon, pourquoi pas, tu vois.
Ouais.
Mais je pense que l'objectif premier, c'est de sortir Dark Souls sur Switch pour avoir encore plus de pépettes. Et voilà, c'est tout. Faut pas chercher midi à 14h. Par contre, je pose une question. Il y a quand même une partie de ces changements qu'on connaît très bien sur PC, hein, vu que il se trouve que il y a des gens qui sont amusés à corriger le jeu qu'on nous avait filé à l'époque et qui ont foutu le jeu en 60 FPS, par exemple. Bon, avec quelques bugs par-ci par-là, mais rien de dramatique non plus. La 4K, voilà, c'est possible. On a la possibilité de mettre de meilleures textures sur PC. Enfin bref, il y a beaucoup de choses. Moi, je me dis, ouais, en fait, ça ressemble vachement à la version PC, le portage foireux en moins, tu vois. Du coup, moi, je pose la question, encore une fois. Je l'avais déjà posée auparavant, mais elle me paraît essentielle. Si on a déjà acheté Dark Souls Prepare to Die sur PC, on le paye combien, le patch?
Ah, bah, tu le payes au prix de base, hein.
Non, parce qu'à un moment donné, je veux bien qu'on prenne pour un con, mais quand même, je veux dire, alors certes, à l'époque, on l'avait réclamé, le jeu, tout ça, très bien, mais quand même, ils nous ont sorti une merde en 30 FPS qui a dû être réparée par les fans. Alors, à l'époque, on était content parce que c'était un portage inespéré, tu vois, mais à un moment donné, je pense que maintenant, on a compris que Dark Souls, c'était une licence qui marchait sur PC, et d'ailleurs, François Sauveur ne s'y est pas trompé, vu qu'ils ont fait un portage du 3 qui était à peu près correct. Et du coup, est-ce qu'on va arrêter de se foutre de notre gueule en nous sortant le patch qu'on aurait dû avoir à l'époque et en nous le faisant payer, en fait? Bon, en vrai, je pense que non, mais voilà. Franchement, s'il file pas, ne serait-ce qu'une remise, et c'est bien le minimum, aux acheteurs du jeu sur PC, ce sera du gros foutage de gueule, quoi. Parce que autant j'ai aucune hostilité vis-à-vis des versions PS4, One et Switch, parce qu'après tout, c'est des nouvelles consoles et qu'ils fassent un portage dessus, pourquoi pas. Le seul truc qui me gêne, c'est qu'on appelle ça un remaster, quoi. À un moment donné, faut arrêter de nous prendre pour des gogos, quoi. C'est un portage patché, point. Par contre, il y a un support dans le lot, là, qui a déjà une version du jeu, et je trouve ça anormal qu'on doive payer pour ça, quoi.
Bah alors là, tu peux bien rêver, ils vont te faire la bêta de Capcom avec Resident Evil 4, tu vois. Resident Evil 4, la version PC qui était sortie à l'époque, était une version moisie, qui tournait moins bien que la version GameCube, donc c'est un comble, tu vois. Et puis après, ils t'ont sorti une version mieux. Puis après, quand il y avait Resident Evil 4, version HD, qui était sortie sur PS3 et 360, ils t'ont ressorti la version de Resident Evil 4 HD. Allô?
Ouais.
Trois fois le même jeu? Pour moi, c'est en fait ce genre de portage ou ce genre de remaster. Enfin, moi, j'appellerais plus un portage, parce que c'est vraiment un portage, en fait, hein. Concerne uniquement, pour moi, les joueurs qui n'ont pas fait le jeu à l'époque. Ils ont la version, on va dire, Game of the Year avec le DLC. Bon, très bien, quoi. Mais pour les gens qui ont déjà fait le jeu de long, large, en travers, franchement, n'achetez pas ça, quoi.
Bon, Morren, tu as craqué, du coup?
Je n'ai pas d'avis sur la question. Mais moi, tu sais que j'ai pris Prepare to Die Edition, hein.
Ah?
Mais oui.
Il y a jamais joué, en plus.
J'y ai jamais joué, hein, mais je l'ai.
Non, mais c'est pour ça que j'ai posé la question, je sais pertinemment que tu l'as dans ta bibliothèque, en plus.
Du coup, ça sera non si c'est pas gratos, hein.
Non, mais Mordren, oublie la version remaster et fais-nous un live sur Prepare to Die Edition, hein. Même si tu veux, tu mets un Tipeee, tu mets ce que tu veux, je finance, hein.
Je vais faire un Tipeee et tu seras le seul donateur.
Ah non, je donnerai aussi, je veux voir ça. Je suis même prêt à payer cher, Mordren, pour voir ça.
Je vais mettre des paliers, tu sais, et le plus haut, ça sera je joue à Dark Souls en live.
Ah non, tu joues à Dark Souls et moi je finance.
Tu vas financer mes séances chez le psy, c'est ça?
Non mais Mardren, on n'a pas arrêté de t'expliquer. C'est pas aussi dur que ce que tu crois. Arrête de faire une fixette sur ça. Lance-toi, bordel.
Non, moi je pense qu'il va me rendre fou ce jeu.
Non, non, non.
Mais non.
Et promis, au bout d'un moment, quand tu tourneras au bout de 3 heures dans la même zone, je te ferai quelques tips et tout ça.
Non, parce que faut le dire à nos auditeurs, à chaque fois qu'on arrête le podcast, qu'on vous dit au revoir, se met en place en fait une système de lobbying entre ATH et Tyran pour me dire de jouer à Dark Souls. Et donc là, on l'a en live, en plein enregistrement.
Non, franchement, là tu exagères. Non, ouais. Genre, à chaque podcast, tu sais, on est là. Bon, ouais.
Et à chaque fois qu'on parle de Dark Souls dans le podcast, ce qui est assez souvent quand même, vous finissez par en parler à la fin de l'enregistrement, enfin après l'enregistrement, et immanquablement, il y a toujours un moment dans la conversation où vous dites, allez, Mordren, vas-y, c'est le moment.
Putain, j'y crois pas.
Et à chaque fois, vous me dites
ça. Mais parce qu'on sait que tu hésites, Mordren, sinon tu l'aurais pas acheté ce putain de jeu.
Mais là, mais j'y crois pas, le mec, il se fait passer pour une victime devant les auditeurs, genre, ouais, regardez comment il marcelle et tout ça. Non, mais, au bout d'un moment, faut dire la vérité, quoi. On lui a dit 2-3 fois, le mec, ça y est, c'est à Marseille, quoi. Tous les jours.
Alors que tout ce qu'ils veulent, c'est juste se foutre de ma gueule en live, hein. C'est juste ça.
Hein. Ah, non, non, moi, je veux pas me foutre de ta gueule, je veux juste coller sur ton skill légendaire. Voir comment tu te débrouilles. Et puis après, ça se passe, je veux dire, putain, il a, en fait, je veux juste être surpris par quelqu'un qui découvre Dark Souls pour la première fois, qui n'y a jamais joué, parce que, moi, j'aimerais bien retrouver, en fait, cette, comment dire. La première fois que tu lances un Dark Souls ou bien un jeu de la licence From Software et que t'as pas fait les autres, il y a toujours ce truc magique mais où il t'explique rien, tu vois. Et t'es là, tu cherches et tu te dis, mais putain, c'est quoi ce jeu d'enculé, quoi. Et donc, moi, si je pouvais revivre ça par procuration via ce pied-là, je dis oui.
En vrai, j'insiste pourquoi? Parce que je suis persuadé que ça pourrait t'intéresser. Voilà. Donc, et je veux dire, si ça t'intéressait pas, tu l'aurais pas acheté.
Oui.
Voilà. Donc, arrête de jouer la victime, là.
Je l'avais acheté pour faire une série de fails, en plus. Donc, je sais très bien pourquoi je l'ai acheté.
Et c'est là qu'en fait, il va gérer et tout. En fait, et ça sera meilleur que moi et ATH réunis.
C'est cela même.
Ah, mais moi, comme je l'ai dit, hein, en plus, c'est sûrement pas moi qui vais me foutre de ta gueule sur Dark Souls, parce que putain, ce serait l'hôpital qui souffrirait de la charité, quoi. Enfin, bref, allez, on s'arrête là pour cette semaine. Rendez-vous la semaine prochaine. Ciao,
salut à tous.
Ciao, ciao.